Alors, nous sommes rejoints par Maude Prud'homme du Réseau québécois des groupes écologistes. Bonjour Maude.
Bonjour.
Alors, parmi les activités du RQGE, il y a beaucoup de sujets environnementaux et un sujet de droit qui pourrait ne pas sembler immédiatement lié, les fameux SLAP, les poursuites bâillons. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ces poursuites bâillons et de leur lien, en fait, avec les causes du Réseau québécois des groupes écologistes?
Bien, les poursuites bâillons comme telles, c'est un phénomène qui a émergé particulièrement aux États-Unis, où ils ont appelé des SLAP, les Strategic Lawsuits Against Public Participation. C'est un phénomène de poursuite abusée. En fait, c'est comme un abus de droit qui s'est utilisé le système judiciaire pour priver une autre partie de ses droits plutôt que pour faire valoir ses propres droits. Habituellement, ça prend la forme d'une poursuite en diffamation contre un groupe, un comité de citoyens ou des personnes qui s'opposent généralement à un projet ou une initiative quelconque. Ça s'est vu beaucoup dans le cas de groupes environnementaux, mais aussi dans des groupes de défense des droits des conservateurs, dans des groupes de femmes, des enjeux féministes. Il y a eu toutes sortes d'enjeux qui ont été touchés par les poursuites bâillons. Par contre, au Québec, ça a vraiment été le cas des dossiers environnementaux qui a mangé la volée de SLAP quand le phénomène a commencé à émerger. On ne sait pas trop exactement quand le phénomène a commencé à se pointer là, à petite échelle, mais il a vraiment éclaté au grand jour, beaucoup avec le cas de l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique, qui a été poursuivie par AIM, là, une compagnie qui faisait de la destruction de l'écrasage d'automobiles sur un dépotoir qui était dangereux, puis ça avait en effet causé plusieurs dommages environnementaux. Mais bref, au Québec, ça s'est vu surtout dans des cas environnementaux, mais aussi dans le cas, par exemple, de Barbara Legault qui avait été poursuivie par un militant de Fathers for Justice, par exemple. Donc, ouais, le phénomène est apparu donc au début des années 2000 au Québec. On a traduit ça par poursuite bâillon. Et suite à des campagnes de mobilisation, entre autres, il y avait eu la campagne Citoyens taisez-vous qui avait été lancée par la QLPA et qui a dû cesser lorsque eux ont signé un accord hors cours. Le Réseau québécois des groupes écologistes ainsi que la Ligue des droits et libertés ont pris le relais sur ce dossier qui est dans le fond à la fois un enjeu de débat public, de droit au débat public, donc de droit de diffuser une information, mais aussi le droit du public de la recevoir. C'est un enjeu aussi de liberté d'expression. C'est un enjeu de liberté d'association. C'est un enjeu qui va toucher beaucoup de droits, mais qui, entre autres, au niveau du débat public, dans une époque aussi intense de débats environnementaux, ben ça donne que c'est surtout sur ces enjeux-là qu'on les retrouve.
Et alors, est-ce qu'il y a eu d'autres exemples qui sont en train d'arriver en ce moment de poursuites bâillons, ou est-ce qu'il y a eu une espèce d'accalmie, ou où est la situation en ce moment?
Bien, il y a eu plusieurs cas, mais depuis l'entrée en vigueur de la loi, parce qu'il y a eu des mobilisations en vue de l'obtention d'une loi anti-SLAP pour le Québec, une loi qui a été inspirée là, de différentes lois un peu partout dans le monde. On en a étudié plusieurs. Puis celle qui a été adoptée, on la trouve fort intéressante. On y reviendra peut-être plus tard. Mais depuis l'adoption de la loi, on a fait une étude sur l'ensemble de la jurisprudence, puis on a dénombré à travers les quelques centaines de cas à peu près 7 cas qui rencontrent les critères de ce que nous, on considère comme une poursuite bâillon. Donc, c'est pas une avalanche de cas. C'est pas non plus une absence de cas. Puis, un des grands cas qui a été publicisé, il y a le cas d'éco-société, évidemment, mais un cas d'école un peu plus type, il y a le cas de Petrolia qui a poursuivi Hugo Lapointe de la Coalition pour que le Québec ait meilleure mine et le journal Le Soleil. Ça a été lancé entre Noël puis le jour de l'an. Puis, le cas a vraiment suivi le cheminement de la nouvelle loi, à savoir qu'il y a eu une mise en demeure. Hugo Lapointe a répondu à la mise en demeure. Il n'est pas obligé de le faire, mais il l'a fait. La compagnie a poursuivi quand même. Ensuite, Hugo a fait un recours en rejet des procédures, ce que la loi permet, c'est-à-dire de demander à la Cour de rejeter la poursuite en disant qu'elle est abusive. Et là, il y a un renversement du fardeau de la preuve et c'est devenu le fardeau de Petrolia de prouver que ce n'était pas une poursuite abusive. Ce à quoi Petrolia a lamentablement échoué. D'ailleurs, la juge était assez éloquente à ce propos et la poursuite a bel et bien été rejetée. La compagnie n'est pas allée en appel et maintenant, Hugo Lapointe poursuit Petrolia pour 400 000 $.
Donc,
ça, c'est un des cas qui est en cours. Là, on attend un jugement. Ce serait la première fois qu'il y aurait des dommages aussi importants qui seraient versés.
Donc, un certain renversement de balance sur ce slap-là, en tout cas pour l'instant?
Oui, en tout cas pour l'instant. Il y a eu le cas des Galipo-Landry aussi, qui est un couple de la région de Cantley en Outaouais, qui, eux, étaient vraiment là, poursuivis personnellement pour 1,2 million de dollars. C'est une saga judiciaire qui a duré 6 ans. Leur vie était complètement minée de toute qualité de loisirs par la poursuite. Puis, eux ont gagné et ont eu gain de cause aussi en termes de frais judiciaires qui leur seraient remboursés, mais aussi de compensation puis de dommages. Par contre, ceux qui les avaient poursuivis sont disparus, donc eux n'ont pas vu la couleur de l'argent, ne serait-ce que pour rembourser là, les dommages qui ont été causés.
Puis par exemple, ces poursuites, Bayon, de quoi sont accusés les gens? Les compagnies les accusent de diffamation? Quels sont les typiques?
Typiquement, c'est diffamation. Parfois, ça peut être autre chose, mais c'est vraiment diffamation qui est le plus fréquent, atteinte à la réputation. Puis historiquement, au niveau judiciaire, au niveau juridique, en fait, le droit à la réputation avait un poids immense. Et au fil des dernières années, dans les derniers jugements, on a vu une tendance qui ramène le droit à la liberté d'expression comme plus lourd par rapport au droit à la réputation. Fait que c'est quelque chose qui est en train de se produire, mais c'est vraiment au niveau là, de la diffamation. Puis une des caractéristiques, justement, c'est que c'est un peu flou. Petrolia, par exemple, va dire « on a été diffamé, atteinte à notre réputation, mais est-ce qu'ils ont perdu des clients? Comment ça s'est traduit concrètement? » C'est toujours un peu l'atteinte comme telle, le dommage comme tel est toujours un peu flou de la part des personnes qui poursuivent. Parce que dans le fond, le but comme tel n'est pas nécessairement de gagner. C'est pas des cas qui sont faits pour être gagnés. Le but, c'est que c'est une poursuite stratégique. C'est donc d'entraîner un débat public, un débat politique dans l'arène judiciaire où ça devient lourd d'avocats, de bureaucratie, de paperasse, de stress parce que il y a quand même une poursuite qui pend, une espèce d'épée de Damoclès qui coûte très cher puis qui peut coûter l'hypothèque des gens qui sont poursuivis. C'est d'entraîner le débat sur ce terrain-là qui est le but de la poursuite. C'est pas comme tel nécessairement de gagner. Donc oui, ça va être diffamation. Des fois, ça va être autre chose, mais le propos comme tel importe peu. L'idée, c'est surtout de poursuivre pour faire taire.
Justement, quelques mots sur cette dynamique-là. C'est peut-être un des sujets les plus importants pour expliquer le concept même d'une poursuite Bayon. Si on n'a pas eu affaire au système judiciaire, on pourrait croire que, ben, tout simplement, on va aller devant le juge et on va prouver que ce n'est pas justifié. Mais généralement, les gens réussissent même pas à se rendre jusque-là à cause de la lourdeur, comme tu disais. Est-ce qu'il y a d'autres éléments, justement, sur ce mécanisme-là, ces armées d'avocats, les stratégies utilisées par les compagnies là-dedans?
Bien, le fait qu'il y ait, justement, une telle disparité entre les moyens des personnes qui poursuivent, des corporations, des personnes morales, dit-on, qui poursuivent et les personnes poursuivies, fait en sorte qu'il y a une espèce de cirque de justice qui a lieu parce que même il y avait eu une cause, entre autres, en Angleterre où c'était McDonald's contre des militants anti-McDo, puis qui les accusaient là, de meurtre, de torture, de ci, de ça. Et McDonald's les avait poursuivis en diffamation. Lui, en fait, finalement, leur cas s'était rendu en une espèce de cour des droits de l'homme européenne, qui est l'espèce de méga-instance. Puis, ils ont établi que la disparité des moyens était telle, tellement, eux, ils avaient des avocats, du monde, juste pour porter les valises des avocats, tellement ils avaient des avocats, tandis que de l'autre côté, ils n'en avaient pas. Ils sont venus à la conclusion que le procès ne pouvait pas être juste et équitable, donc que les décisions ne pouvaient pas être valables, que c'était abusif. Ici, lorsqu'on est poursuivi en diffamation, ça relève du Code civil, donc il est important quand même de se rappeler que on n'ira pas en prison pour ça. Puis si on n'a pas les moyens de payer, ben on n'ira pas en prison non plus, parce que c'est pas une amende, c'est pas une contravention, c'est rien du genre. Par contre, on n'aura pas non plus accès à l'aide juridique. Sauf dans quelques cas de matrimonial ou de ce genre de choses, normalement, au niveau civil, il y a très, très peu d'accès à l'aide juridique. Fait que c'est évident qu'il y a une grosse disparité des moyens. On peut se retrouver dans des procédures judiciaires très compliquées, très lourdes. Eux, comme leur but, c'est d'entraîner une lourdeur judiciaire, ils vont faire toutes les procédures possibles et inimaginables. Dans le cas d'éco-société, ça a vraiment été là, de les écœurer de toutes les procédures possibles pour retarder le jugement, ce qui peut faire en effet que les gens vont s'exaspérer et se décourager avant d'aller voir un juge. Les gens aussi, en général, sont très intimidés par l'arène judiciaire, ce qui va faire en sorte que, même juste pour éviter d'y aller, ils vont prendre des ententes à recours qui vont parfois être plus ou moins favorables, en fait, souvent très défavorables à leur cause.
Oui, puis aussi, un des éléments de la poursuite Bayon, c'est aussi de faire peur, c'est-à-dire que les gens ont peur d'être poursuivis, donc finissent par contrôler le discours. J'imagine que c'est aussi l'esprit des tournées de formation que vous êtes en train de donner.
Tout à fait, parce que c'est pas que les personnes poursuivies qui sont victimes de la poursuite, mais c'est aussi le public en général, puis les potentiels militants, militantes, ou les citoyens et citoyennes qui auraient voulu prendre la parole, mais qui voient que quelqu'un d'autre est poursuivi et qui ne voudront plus prendre la parole, qui voudront pas être identifiés comme une personne potentiellement poursuivable. Fait que c'est vraiment l'ensemble de la population qui subit la poursuite, en fait. Ce qu'on veut faire à travers la tournée provinciale, c'est de désamorcer cette peur-là, de faire connaître la loi, de faire connaître ce nouvel outil judiciaire qui fait en sorte que c'est une loi qui est faite pour les victimes. C'est une loi qui est faite du côté des citoyens et des citoyennes pour défendre la liberté d'expression. C'est d'ailleurs clair dans le préambule de la loi. De désamorcer donc cette peur-là de se faire poursuivre, parce que les cas ont été très médiatisés. C'est présent au niveau même dans le cinéma, au niveau culturel, les gens se font poursuivre pour ci, pour ça. Donc, c'est vraiment de désamorcer la peur, puis de s'approprier, de se réapproprier l'espace de débat public, l'espace politique, puis de se dire, on n'est jamais à l'abri d'une poursuite. Peu importe comment on phrase son discours, on n'est jamais à l'abri d'une poursuite, une poursuite abusive ou quoi que ce soit, mais d'être mieux équipé puis plus confiant qu'on va être capable de désamorcer et que le système judiciaire va pas laisser s'entraîner dans une lourdeur qui devient en soi une arme contre la population.
Alors, si on veut s'informer sur le sujet ou assister à des ateliers ou vous inviter dans un milieu de travail syndical, communautaire, association étudiante, comment est-ce qu'on vous contacte?
Vous pouvez me contacter à slap@rqge.qc.ca, slap@rqge.qc.ca. Pour l'instant, je donne la formation avec Mme Lucie Lemonde, qui est professeure de droit à l'Université du Québec à Montréal. Elle n'est pas disponible pour tous les organismes qui veulent nous inviter, mais nous offrirons la formation à Montréal au printemps, ainsi qu'en Estrie, à Québec et au Lac-Saint-Jean. Il y aura bientôt aussi une vidéo en ligne de la formation et les outils de formation, les fiches comme telles pédagogiques sont disponibles en ligne via le site du RQGE qui est le www.rqge.qc.ca.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Ça fait plaisir.